des anarchistes démocrates. C'est ainsi que Gérard Prunier, l'un de nos invités, qualifie les Somaliens. Et il est vrai que ce peuple de nomades semble perpétuellement vivre dans le chaos, au milieu de cette zone aride de la Corne de l'Afrique, au nord-est du continent, en face de la péninsule arabique. Même si effectivement la Somalie est un pays sans État depuis 1991, même si elle fut soumise pendant 15 ans à des seigneurs de guerre mafieux qui rackettaient la population, le mot chaos n'est applicable que dans nos esprits d'occidentaux habitués à un certain mode de vie et de pensée. Derrière un apparent chaos, la société somalienne obéit à une organisation, à des principes qui n'ont guère changé en 2000 ans. Ceci malgré l'islam, malgré la colonisation, malgré la dictature, malgré l'argent facile et les armes automatiques. Focus vous invite à découvrir la Somalie qui est revenue au devant de l'actualité, avec la prise de pouvoir par les tribunaux islamiques en juin 2006, puis leur chute fin décembre de la même année. Nos invités, Marie-France Cros, la spécialiste de l'Afrique à la Libre Belgique, Christophe Ayat, envoyé spécial en Somalie pour le journal Libération lors de la chute des tribunaux islamiques, enfin le grand spécialiste de la Corne de l'Afrique, Gérard Prunier, ancien directeur du Centre français d'études éthiopiennes à Addis Abeba, en Éthiopie, lieu où il réside toujours. Pour commencer, quelques généralités de dictionnaire. La Somalie est un pays de 637 000 km², soit un peu moins de 21 fois la Belgique. Le pays compterait, mais il n'y a évidemment pas de recensement, environ 8 millions d'habitants. La capitale est Mogadiscio. Depuis le début des années 90, la Somalie ne dispose plus d'un gouvernement centralisé. La population s'organise autour de clans, il y en a 5 importants dans le pays. L'espérance de vie à la naissance est de 43 ans pour les hommes et 45 pour les femmes. La population est presque entièrement d'ethnie somalie. On compte quelques pourcents d'Arabes sur les côtes ainsi que des Bantous d'Afrique noire dans le sud. La quasi-totalité de la population est musulmane. Le paysage avec Marie-France Cros.
En général, le pays est extrêmement aride et rien que pour vous en donner une idée, il suffira de dire qu'il n'y a que deux cours d'eau permanents. La plupart des autres cours d'eau n'existent que pendant la saison des pluies. Et les deux cours d'eau permanents, c'est une rivière et un fleuve. Et c'est autour de cette rivière, la Chebele, et le fleuve, la Djouba, que l'essentiel de l'agriculture s'organise. Et ce sont des zones qui, en saison des pluies, sont très vertes. C'est beau, c'est magnifique, mais ça sèche assez vite en saison sèche.
Le paysage impose un mode de vie adapté. Gérard Prunier.
La culture somalie est une culture essentiellement nomade. Donc, ce n'est pas des paysans, à part des gens comme les Rahanwain, qui sont dans les vallées de la Wadi Chebele et de la Djouba, qui eux sont des paysans sédentaires parce qu'il y a du fleuve, il y a de l'eau, donc on peut faire de l'agriculture. Mais la majorité des Somalis, c'est des pays trop secs, il n'y a pas de précipitations suffisantes pour faire de l'agriculture bien durable. On fait un petit peu dans des endroits un peu humides, mais il n'y a pas beaucoup. Donc c'est des nomades. Donc leurs territoires sont des territoires un peu en caoutchouc. Ceci dit, il y a une certaine permanence. Les gens nomadisent à l'intérieur d'une certaine zone. Ils ne vont pas n'importe où. Et d'ailleurs, la naissance des conflits dans le monde somali, c'est toujours à propos d'histoires de pâturage et d'eau. C'est-à-dire, où est-ce que j'emmène mes chameaux, mes moutons et mes chèvres? Est-ce que j'ai le droit d'aller chez toi? Si je vais chez toi, est-ce que tu me tires dessus? Est-ce qu'on peut partager de l'eau s'il y en a assez? Est-ce que les pâturages sont assez gras? Ou s'il n'y en a pas, est-ce que c'est moi qui essaye de te tirer dessus ou toi qui me tires dessus? Tous les conflits tournent autour de ça.
Les habitants de grandes villes comme Mogadiscio ne sont plus à proprement parler nomades. Ils en gardent cependant l'esprit, la mentalité et la culture. Marie-France Cros.
Même s'ils ne vivent pas carrément de manière nomade, ça influence très fort leur mode de vie qui, d'une certaine manière, a très peu changé depuis 2000 ans. Encore aujourd'hui, on peut dire que la civilisation des Somalis, c'est une civilisation qui ressemble à ce qu'on décrit dans l'Ancien Testament. C'est une civilisation pastorale. Bon, les spécialistes disent une démocratie pastorale parce qu'on discute, enfin, les hommes du clan ou du sous-clan ou du lignage discutent et ce sont les vieux du sous-clan ou du lignage qui ont le dernier mot, mais ça se fait par des discussions. Il n'y a pas de chef suprême dans ce fonctionnement quotidien. Mais évidemment, les jeunes de l'époque moderne ressentent parfois comme une dictature le pouvoir des aînés. Ça se passe dans beaucoup de régions d'Afrique, mais en gros, le système est vraiment quasiment biblique. Mmh. C'est extraordinaire. Alors, quand vous vous adressez à des lettrés somaliens, ils vous décrivent la culture, les deux piliers de la culture somalienne, c'est l'élevage du bétail et la poésie. Les poètes sont des gens extrêmement importants dans les clans. Ils sont traditionnellement considérés comme les porte-parole du clan. C'est eux qui vont exprimer de manière fleurie la position du clan, qui il est, qui sont ses ancêtres, etc. Mais c'est eux qui sont ils jouent un rôle extrêmement important dans la société. Et on peut dire qu'aujourd'hui, enfin peut-être plus tout à fait aujourd'hui parce que la situation s'est empirée, mais disons à l'époque moderne, la vie du Somali moyen se passe entre le bétail, la guerre entre clans et la poésie le soir sous la tente.
La vie des Somalis ne s'assimile cependant pas toujours à un poème. Il en va ainsi de nombreuses femmes qui subissent des mutilations sexuelles. Parenthèse sur une réalité bien brutale à nos yeux d'occidentaux.
La technique la plus courante, c'est l'excision, c'est-à-dire qu'on coupe le clitoris pour empêcher la femme d'avoir du plaisir et donc garantir qu'on contrôle mieux sa sexualité. Et vous avez certaines régions comme le Yémen et comme la Somalie et le nord du Kenya qui est peuplé par des gens d'ethnie somalie où on pratique en plus l'infibulation, c'est-à-dire qu'on coupe une partie du vagin, ce qui pose des problèmes lors des règles et à l'accouchement, pour être, si vous voulez, comme une surgarantie de virginité. Et ce sont des pratiques qui ont des conséquences médicales terribles pour les femmes, qui suscitent énormément d'infections, de maladies, qui provoquent des problèmes à l'accouchement et lors de la nuit de noces. J'ai rencontré une femme médecin qui me disait que ses collègues médecins lui laissaient tous ces cas-là parce qu'ils étaient horrifiés de ce qu'ils voyaient. Et ils préféraient laisser une femme opérer parce qu'il faut véritablement opérer. Lorsqu'on parle de cette question qui ne concerne pas que la Somalie, mais toute une partie de l'Afrique et de la péninsule arabique, on explique que ce ne sont pas des traditions liées à l'islam, bien que la majorité des Africains qui le pratiquent soient persuadés que ça relève de la religion. En réalité, d'après des anthropologues, il semble que ça relève d'avant la période de l'islamisation.
Marie-France Croll a mentionné auparavant, la société somalie s'articule autour de clans, une organisation qui existe depuis la nuit des temps. Gérard Prunier.
Étant donné que la société somalienne et la langue somalie n'a pas été écrite avant 1973, il est bien évident qu'il n'y a pas d'archives. Mais les premiers témoignages que nous avons sur le monde somali, des explorateurs européens du 19e siècle, ou même des voyageurs arabes à des dates beaucoup plus anciennes, toujours le clanisme est présent. C'est une organisation de base de la société somalie. C'est aussi vieux que le monde somali lui-même.
Comment s'organisent les clans ? Gérard Prunier.
Vous avez des clans, vous avez des familles de clans, vous avez des sous-clans, vous avez des sous-sous-clans, et des sous-sous-sous-clans, et à l'intérieur de ça, vous avez des lignages. C'est-à-dire, c'est pas juste, il ne faut pas imaginer une espèce de marqueterie avec des éléments qui seraient tous les mêmes. Et vous avez des familles de clans qui sont géantes, comme par exemple les Darodes. Les Darodes, ils représentent à eux tout seuls peut-être 35-40% de la société somalie. Bon, les Hawiyés, idem. Vous avez cinq grandes familles de clans. Mais alors justement, celles-là, elles sont tellement grandes, elles ont des millions de membres, que ce n'est pas opératoire. Ce qui est opératoire, c'est la plupart du temps le sous-clan et même le lignage, ou le sous-sous-clan et le lignage.
Nous reviendrons plus tard sur l'organisation de la société somalie en clans qui a influencé de tout temps l'histoire de cette région. Parlons-en de l'histoire. Au 7e siècle arrivent les Arabes. Ils viennent de la péninsule arabique, sur laquelle on trouve aujourd'hui l'Arabie saoudite, le Yémen. Marie-France Croix.
Entre le 7e et le 10e siècle, on voit les premiers comptoirs arabes et persans, et c'est comme ça que l'islamisation pénétrera dans ce territoire avec difficulté, parce que les premières villes tarderont à s'organiser sur ce territoire qui est celui de nomades. Et il faudra attendre très longtemps pour avoir des villes, et les premières sont d'ailleurs sur la côte et naissent de comptoirs, notamment Mogadiscio, qui est créé aux alentours du Xe siècle.
Après les Arabes viendront, beaucoup plus tard, les Européens. Les Portugais ont mis pied en Somalie au XVIe siècle, mais on ne peut parler de véritable colonisation qu'au XIXe siècle avec l'arrivée des Français et surtout de l'Empire britannique puis de l'Italie. Les Français ne s'implanteront qu'à l'extrême nord sur des territoires que l'on appellera un temps Somalie française. L'indépendance de cette colonie surviendra en 1977 pour devenir Djibouti. Les Britanniques s'installent au nord, notamment pour sécuriser la mer Rouge qui est une voie cruciale vers les colonies britanniques en Inde. L'Italie fasciste de Mussolini s'installe aussi en Somalie. Marie-France Croix.
Les Italiens créent un peu plus au sud, donc dans ce qui est le principal territoire de la Somalie aujourd'hui, ils créent une colonie. La différence entre les Anglais et les Italiens, c'est que les Italiens vont créer une colonie de peuplement, donc avec des Italiens qui viennent y vivre et qui essayent de transposer leur culture sur le sol africain, tandis que la Grande-Bretagne ne procède pas de la même manière. Le résultat, c'est qu'à l'indépendance, le premier territoire sera plus développé que le second.
En 1960, la Somalie accède à l'indépendance. Marie-France Cros.
On commence en 1960 par l'indépendance du Somaliland britannique. Quelques jours après, il y a celle de la Somalie ex-italienne et les deux vont se réunir. Mais dans le partage de ce qui était le territoire, on ne peut pas dire somalien, mais peuplé par des Somalis, il y a une partie qui est annexée par la France et qui deviendra Djibouti. Il y a une autre partie qui est en Éthiopie. Qui s'appelle l'Ogaden. Il y a des Somalis un peu en dehors de l'Ogaden, mais enfin, c'est essentiellement la province de l'Ogaden. Et il y a des Somalis aussi dans le nord du Kenya. Et à partir de l'indépendance, le grand rêve des Somaliens, tous les Somaliens, quelles que soient leurs opinions politiques, c'est de reconstituer, de constituer la Grande Somalie. Elle n'a jamais existé en tant que telle, mais ils voudraient constituer la Grande Somalie en réunissant tous les territoires où vivent essentiellement des Somalis. Et ça va être la pierre angulaire du nationalisme somalien.
Comme dans de nombreux autres pays d'Afrique, la période post-coloniale censée installer un système démocratique à la sauce occidentale est difficile. Marie-France Cros.
Petit à petit, le mécontentement, alors qu'on pensait qu'avec l'indépendance tout irait bien, on a plus les étrangers qui viennent vous dire ce qu'il faut faire, l'espoir qui est né de l'indépendance s'effrite parce que ça ne se passe pas si bien que ça. Et petit à petit, on voit la constitution de partis sur base de clans. Si bien qu'aux élections de 1969, il y a 68 partis qui sont à peu près la représentation de la soixantaine de clans, sous-clans et lignages. Et ces élections vont donner un président et un premier ministre qui se révèlent assez vite être des autocrates, qui pratiquent un certain népotisme et qui donc développent le clanisme. Et le clanisme redevient la base de la politique.
Revenons sur les clans. Nous avons dit qu'ils constituaient la base de la société somalienne depuis toujours, qu'ils se subdivisaient en sous-clans, lignages, etc. Pourquoi ces clans ont-ils une importance capitale dans la société somalienne ? Gérard Prunier.
Le clan, c'est quelque chose qui est une espèce de personnalité totale. Si j'appartiens à un clan, un sous-clan, un lignage, ça me donne tout. Ça me donne mon identité, parce que je peux remonter la chaîne de mes ancêtres. Ça me donne mes assurances sociales, parce que si je suis malade ou j'ai pas d'argent, ou j'ai des problèmes de famille ou n'importe quoi, par exemple... J'ai été obligé de partir en Europe, puis je reviens, j'ai pas de rond, je sais pas où habiter, je vais chez mon clan. Et dans l'autre sens même, vous arrivez au Canada par exemple. Bon, moi je peux vous dire quels sont les clans somalis à Calgary, à Toronto, à Amsterdam, parce que ça marche dans l'exil. Et vous arrivez, vous appartenez à un clan. Et comment est-ce que vous le prouvez ? Vous donnez votre généalogie. Et bon, et on vous pose des questions et on peut chercher dans votre généalogie. Vous appartenez à ce clan, à ce sous-clan. Vous êtes capable de dire, voilà, les noms de mes grands-parents, arrière-grands-parents. J'ai remonté jusqu'à la 8e, 10e génération.
Ah ouais.
Bon, vous êtes de ce sous-clan, les gens vous aident. Et ils vous aident parce qu'ils sont obligés de le faire. C'est une obligation sociale.
L'organisation en clan est aussi la base de la justice. Gérard Prunier.
Et c'est également la vengeance, c'est-à-dire, bon, vous êtes tué ou blessé par quelqu'un d'un autre clan, les membres de votre clan ont pour devoir moral et social et culturel de vous venger, de tuer ceux qui vous ont tué, ou d'exiger ce qu'on appelle mag en Somalie, c'est-à-dire le prix du sang. Si par exemple je me bats avec un homme, je le blesse, et après ça on est obligé de lui couper un bras, eh ben ça coûte tant. Si on lui coupe la main, ça coûte tant. Il perd 3 doigts, ça c'est beaucoup moins cher, parce que c'est quand même pas trop grave, mais ça coûte quand même tant. Il y a un prix.
D'accord.
Tout est tarifé. Et qui est-ce qui est capable de réclamer l'argent du sang, le prix du sang ? Les gens de mon clan. Moi j'ai perdu, par exemple, une main dans une bagarre. Eh ben, s'il n'y a pas mon clan qui s'amène avec sa force, comment est-ce que je vais récupérer l'argent ? Mais eux, ils vont me soutenir et on va me payer. Parce qu'autrement, ils menacent les gens de l'autre clan, eux, de les tuer. Aussi, ou de leur couper des trucs. Bon, donc c'est une espèce d'assurance sociale, de justice, de carte d'identité. C'est énorme. C'est en fait un concurrent de l'État, le clan.
Revenons à l'histoire. En 1969, le général Siad Barré profite de la fragilité d'un gouvernement rongé par les luttes entre clans. Il procède à un coup d'État et prend la tête d'un conseil révolutionnaire suprême. Il restera au pouvoir jusqu'en 1991. Qui est Siad Barré et comment se caractérise son pouvoir ? Gérard Prunier, puis Marie-France Cros.
Siad Barré, c'était quoi ? C'était un petit carabinieri fasciste italien. Dans les années 30, il avait la chemise noire. Il a été membre du parti fasciste en 1948, quand l'Amministrazione Fiduciaria Italiana in Somalia, qui était créée par les Nations Unies, a donné le mandat de l'ancienne Somalie italienne aux Italiens. C'était donner la clé du poulailler au renard. Ils ont immédiatement recréé un parti fasciste, parce que tous les administrateurs coloniaux qui sont revenus d'avant-guerre étaient tous fascistes. Donc ils ont recruté leur clientèle, et Siad Barré en faisait partie. C'est un mec qui vous disait en face « J'admire Benito Mussolini ». Alors vous comprenez, il y a un problème. Vous êtes avec une population anarchisante, et vous avez le modèle de l'État fasciste, qui n'est pas exactement décentralisé ni démocratique.
Le général Siad Barré se révèle assez vite un adepte du socialisme scientifique. Il se rapproche de l'URSS, mais pas tant par choix idéologique que parce qu'il apprécie les méthodes de contrôle de la société. C'est assez général en Afrique. Beaucoup de pays décrits comme pro-soviétiques, ils sont pro-soviétiques pour obtenir l'aide militaire ou au développement de l'Union soviétique et surtout pour en apprendre les techniques de contrôle des foules. C'est plus le style dictatorial qui plaît et qui est ainsi justifié lorsqu'on est un allié de l'URSS que vraiment, véritablement, l'idéologie socialiste. Néanmoins, Siad Barré procède à la nationalisation de plusieurs secteurs importants de l'économie, notamment les terres, ce qui, évidemment, comme dans tout pays agricole et nomade, va provoquer des drames. Néanmoins, comme plusieurs régimes socialistes, la dictature de Siad Barré a des réussites à son actif. Notamment, ils sont arrivés à diminuer de manière importante l'analphabétisme, notamment parce qu'ils ont simplifié la langue en passant à l'alphabet romain. Et en tout cas, comme il est plus facile à apprendre, il permet d'aller plus vite dans l'alphabétisation. Il y a aussi l'URSS a apporté une aide à la Somalie lorsqu'elle a dû traverser des périodes de sécheresse dans les années 70 et 80. Et en échange, elle a obtenu des bases militaires.
Le régime de Siad Barré tombe en 1991. Et avec lui, l'État tout entier. On va alors voir l'émergence de bandes armées liées aux clans et dirigées par ce qu'on va appeler des seigneurs de guerre. Marie-France Cros.
Comme je vous l'ai dit, Siad Barré a commencé par armer certains clans contre d'autres pour détruire ses ennemis. Mais petit à petit, avec le soulèvement contre Siad Barré, l'insécurité physique est devenue plus grande à Mogadiscio, mais aussi en Brousse. Et donc, petit à petit, les gens ont commencé à s'armer pour leur propre sécurité. Puisque la structure de base de la société somalienne, c'est le clan, les clans, au cours des dernières années, quand Barré a voulu contrer son opposition en ouvrant un petit peu la politique au multipartisme, les partis se sont créés de nouveau sur la ligne des clans. Il est assez normal que les clans forment des petites armées. Alors, en théorie, c'est un parti, ça a un nom de parti, mais on sait très bien que c'est tel clan et que c'est une milice. Donc, ça se fait. Il n'y a pas un jour où on décide qu'on devient une milice. C'est un clan qui s'est organisé en partie et qui s'arme pour se défendre. Alors, comme la situation économique reste difficile, que la sécheresse accentue les rivalités pour les points d'eau et pour le bétail, il y a, comme il y a depuis 2000 ans, des razzias pour prendre du bétail chez l'autre. Ou alors, si on a un conflit avec tel clan, c'est ce que Siad Barré a fait, il a détruit des centaines de réservoirs d'eau pour détruire un clan qui lui était hostile, et il a fait 2000 morts de soif, parce qu'il détruisait ses réservoirs de soif et de faim, parce que le bétail mourait, etc. etc. Ce sont des choses qui petit à petit se développent, puisqu'il n'y a plus d'armée. Elle a totalement disparu avec la défaite de Siad Barré. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'administration. Puisqu'il n'y a plus rien, les clans, automatiquement, pour leur propre sécurité, se resserrent sur eux-mêmes et assurent tout eux-mêmes, comme ils le faisaient il y a 2000 ans.
Ces seigneurs de guerre commettent les pires exactions, utilisant généralement des jeunes qu'ils arment et que l'on appelle les Mourians. Marie-France Cros.
En fait, fondamentalement, rien n'a changé. C'est-à-dire qu'ils gardent leur même culture, qui est une culture de défense du clan et d'agressivité vis-à-vis des autres pour protéger les ressources financières, économiques du clan. Ce qui a changé, c'est qu'avec la modernité, les armes sont beaucoup plus meurtrières, qu'en plus on a des voitures, que comme ils ne sont pas bêtes, ils équipent les voitures, les jeeps, avec des, ils montent dessus des mitrailleuses, les fameux technicals qui
qu'on
ont
voit
fait.
Un peu dans toute l'Afrique, d'ailleurs.
Et qu'on a vu beaucoup au cinéma, parce que ça, c'était vraiment une image trop extraordinaire pour que Hollywood ne l'utilise pas. Et forcément, comme dans toutes les sociétés en guerre, ce sont les jeunes gens qui sont la partie la plus active, puisqu'on sait que les jeunes gens sont plus agressifs que les vieux, et les hommes que les femmes, je caricature, mais enfin, en gros, c'est ça. Donc c'est assez normal que ce soit les jeunes hommes des clans qui soient utilisés comme fer de lance de la force armée du clan. En fait, quand on parle des exactions, oui, elles existent, mais elles ne sont pas nouvelles. Leur ampleur, simplement, a augmenté avec la modernité, l'accès aux armes, etc., etc. Comme dans tous les pays où l'État disparaît, où les structures disparaissent, les gens se financent avec tout ce qui fonctionne. Mmh. Et ce qui fonctionne, c'est le commerce du CAT. Et aussi, lorsque la communauté internationale s'intéressera à la Somalie, l'aide humanitaire.
Les seigneurs de guerre empêchent les opérations humanitaires de se dérouler normalement. C'est pourquoi on décide d'une aide humanitaire sous escorte militaire. C'est l'opération Restore Hope. Marie-France Cros.
Les agences humanitaires portent de la nourriture en Somalie, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les clans mettent la main dessus pour vendre, parce qu'ils ont besoin d'argent, ils cherchent une activité économique. Donc cette aide humanitaire est assez vite l'objet d'un trafic de raquettes. Vous avez par exemple des organisations comme MSF qui devaient louer des seigneurs, enfin les hommes de seigneurs de la guerre pour se protéger elles, donc on les accuse d'entretenir la guerre, etc., etc. Ça faisait des tas de problèmes. Les organisations humanitaires qui ne sont pas protégées par des hommes armés se font piller. Bref, l'ONU dit, mais ce n'est pas possible, il faut une intervention militaro-humanitaire pour arriver à donner l'aide aux populations affamées. Et c'est ça qui sert de point de départ à l'opération Restore Hope, c'est-à-dire rétablissons l'espoir, qui a lieu en décembre 1992. Effectivement, les caméras ont débarqué avant les soldats américains et était calculé pour arriver juste à temps pour les journaux du soir télévisés américains. L'opération est importante. C'est à peu près 30 000 hommes qui débarquent, 30 000 Américains qui débarquent avec l'accord de l'ONU. Et il va y avoir après des contingents de 21 autres pays en appoint des Américains, mais ça fait un total d'environ 8 000 hommes, dont la Belgique.
L'opération militaro-humanitaire se transforme en une véritable guerre entre Américains et la population de Mogadiscio. Explication avec Marie-France Cros.
Leur contingent et en particulier leur force de déploiement rapide reste indépendante et elle agit en dehors des directives militaires des casques bleus. Et essentiellement, la guerre de cette force de déploiement rapide garde les défauts qu'on avait reprochés au contingent américain avant de le transformer en opération de l'ONU. C'est qu'il a des buts plus politiques qu'humanitaires. Il privilégie la confrontation plutôt que la négociation, alors que la culture de base des Somaliens, on l'a vu, c'est discuter, se réunir entre vieux et hommes du clan pour discuter, négocier, organiser des médiations. Donc le problème demeure, et c'est en particulier cette force de déploiement rapide qui mène des attaques. Finalement, elle fait une véritable guerre à la faction majoritaire à Mogadiscio, celle de Mohamed Farah Aidid, et finalement organise une véritable chasse à l'homme contre celui-ci, qui est aussitôt soutenu par la population locale, où son clan, les Hawiyeh, est bien représenté, et où, de toute manière, les Somaliens n'aiment pas voir des étrangers faire la loi chez eux. C'est quelque chose qui existe ailleurs qu'en Somalie. Et donc, on voit petit à petit cette opération militaro-humanitaire se transformer en guerre entre les Américains et leurs plus proches alliés, notamment le contingent pakistanais, contre la population de Mogadiscio. Et vous avez à plusieurs reprises vous avez 24 Pakistanais à une reprise, puis des Américains qui sont tués par la foule ou par des tireurs isolés à Mogadiscio. Vous avez des répliques américaines, par exemple un bombardement de Mogadiscio par hélicoptère qui fait une centaine de morts. La population en représailles tue des journalistes qui étaient anglophones ou qui parlaient anglais parce que c'était la seule langue comprise là et qui ont donc été assimilés aux Américains. Vous avez plusieurs, comme ça, vous avez une escalade de la violence entre les Américains et la population de Mogadiscio qui aboutit à l'épisode qui a été, qui a fait l'objet d'un film hollywoodien en octobre 1993. La population, enfin un tireur dans la population descend l'hélicoptère et 18 soldats américains seront lynchés, leurs corps traînés dans les rues de Mogadiscio avec la foule qui crie victoire. Enfin, quand on voit ces images, il ne faut pas oublier non plus que la foule avait eu 500 morts un mois avant, 100 trois mois auparavant parce qu'elle avait été bombardée par ces hélicoptères.
Le lynchage des soldats américains met un terme à l'opération militaire US. Les troupes rentrent au pays en 1993 et laissent seuls sur le terrain les casques bleus. Jamais ceux-ci ne parviendront à sécuriser la Somalie. En 1995, l'ONU se retire à son tour, laissant la Somalie plongée dans le chaos. L'aveu d'impuissance de la communauté internationale est terrible. Mais au milieu de cette anarchie où seules les armes des seigneurs de guerre font la loi, une autre force va émerger. Une force venue cette fois de l'intérieur même du pays. Au milieu des années 90 surgissent les premiers tribunaux islamiques. Comment et pourquoi les tribunaux islamiques finiront-ils par prendre le pouvoir une dizaine d'années plus tard? Comment et pourquoi tomberont-ils à leur tour fin 2006? La Somalie va-t-elle replonger dans le chaos? Réponse à toutes ces questions dans la seconde partie du Focus consacré à la Somalie, disponible dès la semaine prochaine et d'ores et déjà sur le blog de Focus, accessible à partir du site web lalibre.be.